Donc, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est là ce soir pour regarder dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu a à nous dire en ce lundi. On va tout d'abord, je crois que nécessaire, on va tout d'abord prier. Ensuite de ça, je vous donnerai une légère rétrospective de ce qu'on a vu la semaine dernière sans prendre la matière, naturellement, mais on va prendre les points centraux de certaines choses parce qu'on a ouvert ce cours-là sur les actes des apôtres la semaine dernière et on le fait avec les cinq premiers versets du chapitre 1 des actes des apôtres et on va regarder. On va faire une petite rétrospective sur un peu sur ce qu'on a vu, mais d'abord prions. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de ta miséricorde envers nous pendant ce temps, Seigneur, que particulier, cette époque particulière où nous vivons, Seigneur, tu avais prévu de toute éternité ces temps. Tu connaissais cette journée avant que cette journée arrive. Nous sommes limités par les événements. Quelquefois, nous sommes limités par notre pensée, et nous allons le voir ce soir aussi dans ta parole, par nos conceptions des choses, mais ça ne te limite toi en rien, ô Dieu. Donc, Seigneur, bénis ce temps que nous allons prendre et rends-nous, Seigneur, des hommes, des femmes, Seigneur, des jeunes hommes, des jeunes femmes, obéissant de cœur et de pensée, Seigneur, à ta parole et d'action, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être des fils et des filles du royaume attachés à la saine doctrine. Je remets ce temps d'étude entre tes mains. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis. Comme je vous ai dit là, quelques instants, on a ouvert la semaine dernière un nouveau cours qu'on va prendre pendant tout l'hiver. On va regarder le livre des Actes des apôtres. J'avais terminé la semaine dernière, même celle d'avant, quand on a terminé Apocalypse. Je vous avais dit que l'Apocalypse était la fin, si vous voulez, de la période, premièrement de l'Église sur la terre, deuxièmement, la fin du monde tel qu'on le connaît, pas la fin du monde, mais la fin de la gestion du monde par des gouvernances humaines telles qu'on le connaît. Et je vous avais dit, il est de soi qu'on prenne le livre des Actes des apôtres, suivant cela, parce que le livre des Actes des apôtres nous montre les débuts de l'Église, comme le livre d'Apocalypse nous montre la fin de l'Église. Le livre des Actes des apôtres, lui, nous montre le début de l'Église, l'instauration du royaume de Dieu en nous, et non pas sur la terre telle quelle pour gouverner les choses de ce monde, mais en nous. Et je vous avais expliqué que le livre des Actes nous donne beaucoup d'informations sur comment eux ont fait la gestion. Pardonnez-moi. Eux ont fait la gestion de l'Église. Eux, comment ils ont organisé cette nouvelle Église-là. Et on avait fait la semaine dernière l'introduction. L'introduction qui se trouve dans les cinq premiers versets du livre des Actes au chapitre 1, bien entendu. On a vu quoi? On a vu la division du livre. On a vu l'auteur du livre. Qui était l'auteur du livre? La division étant pas la division naturellement pointue dont je vais faire, mais la division générale du livre. L'auteur, on a vu qui était l'auteur, était Luc. On a vu un peu qui était Luc, on a vu qu'il était médecin, et que naturellement, référence directe le verset 1 du chapitre 1 de Actes des apôtres, à qui est adressé les Actes des apôtres? Oui, ça nous est adressé à nous, mais Luc, quand il l'a composé, et pas d'une composition là, venant de lui, mais des recherches exactes, comme il dit qu'il a fait dans le chapitre 1, le verset 1 de Actes des apôtres, où il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre », donc il fait une référence directe à l'évangile de Luc, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès leur commencement. Et ensuite de ça, il va dire un peu pourquoi il écrit cela. Donc, on a regardé cette note-là un peu de l'auteur. On a regardé quelques définitions la semaine dernière pour vous donner des points de repère. Et je vous passe les choses vitement. Les points de repère, on a vu qui étaient les hellénistes. Qu'est-ce que voulait dire le terme hélléniste? On a vu qui étaient les samaritains. On a vu, grosso modo, cinq types de peuples à qui s'adressait, si vous voulez, le livre des Actes, ou non, pas s'adressait à eux, mais de qui parle aussi le livre des Actes des apôtres. Et je voulais vous donner des définitions générales de ces choses-là. Et on a vu le but du livre. Et je termine avec cela pour ma rétrospective. Le but du livre n'étant pas de donner d'une façon naturellement, c'est donner d'une façon, oui, assez suivie, mais pas d'une façon détaillée tout ce qui s'est passé pendant le nombre d'années qu'a duré la rédaction où après Luc va avoir colligé un peu tous les principaux événements de Actes des apôtres, parce que je vous avais dit que le livre des Actes des apôtres est échelonné environ sur 32 ans à 30 quelques années, là, mettons une trentaine d'années, les premières 30 ans de la vie de l'Église depuis que le Seigneur va avoir été enlevé. Et je vous ai signifié que naturellement, que le livre ne mentionne pas de façon pointue, exacte, chaque fait et geste de tous et chacun. Sinon, le livre des Actes des apôtres n'aura pas 28 chapitres. On se retrouverait probablement avec 28 000 chapitres parce que la période de temps écoulée est assez longue. Donc, quel est le but du livre? C'est de nous montrer comment l'Église naissante, comment l'Église qui prenait son essor ont organisé les choses, les différentes difficultés, persécutions, voire les divisions internes qui auraient pu arriver, comment les apôtres ont géré cela, comment l'Église du commencement a géré cela. Et on a vu ces choses-là dans les cinq premiers versets. Pas tout ce qu'on va regarder, mais je vous avais brossé un tableau général et on avait terminé avec le verset 5 où Jésus leur dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et Jésus, avant de partir, leur donne un ordre d'attendre la venue du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et tout de suite, et c'est là que je vous projette un peu vers l'avant, c'est-à-dire on rentre maintenant dans notre deuxième session de l'étude sur le livre des Actes. À partir du verset 7, on va prendre le verset 6, le verset 7 et le verset 8 pour débuter. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » je vais relever trois choses ici, dont deux fondamentales pour le restant de l'étude des Actes des apôtres. La question au verset 6 qui est posée par les apôtres, où ils vont lui dire, alors les apôtres réunis demandant, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Nous montre ici quelque chose des apôtres, un peu leur conception du royaume de Dieu qui était juive, leur conception des choses qui devaient arriver selon eux, selon une conception juive. Et tantôt, je vais le regarder un peu plus en détail avec vous. Deuxième chose qu'on regarde, il lui dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments. Eux voulaient savoir, est-ce que le royaume de Dieu va venir s'installer sur la terre tout de suite après le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'est dans ces temps-là que ça va arriver? Mais il dit, verset 8, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et ici, il va leur donner l'ordre de la grande commission de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Où il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vous allez voir que ce schéma-là est suivi tout au long du livre des Actes des apôtres, par eux, par les apôtres, par Paul, qui va écrire toutes les épîtres dont on connaît. Paul va suivre aussi le même schéma. Quel est ce schéma? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémités de la terre. C'est le schéma dans lequel ils vont fonctionner ici. Donc, c'est les trois points qu'on va voir pour débuter. Je reviens à mon premier point que je vais développer un peu. Et il lui demanda, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, les apôtres, malgré qu'ils avaient vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus, malgré qu'ils avaient été enseignés par Jésus des différentes facettes du royaume de Dieu, leur position était fondamentalement nationaliste. La position qu'ils avaient du royaume de Dieu était nationaliste. La position qu'il avait du salut en Christ était nationaliste. La vision qu'ils avaient pour l'humanité était d'abord nationaliste, c'est-à-dire les Juifs. Malgré plusieurs déclarations que Jésus avait faites dans le sens que l'Évangile devait être répandu partout dans le monde, malgré les 3 ans et demi que Jésus avait passé avec eux, la forteresse dans leur pensée n'était pas tombée. Leur raisonnement juif, leur conception juive de ce que devait être le royaume de Dieu était demeuré là. J'ai déjà parlé, je vous ai déjà donné des prédications, le pasteur Florent le fait aussi, où Paul va parler de renverser les forteresses, de renverser toute hauteur qui s'élève contre l'Évangile, qui s'élève contre le royaume de Dieu. Les apôtres n'en faisaient pas exception. C'est-à-dire, vous voyez que tout de suite dans les Actes des apôtres, lorsque Jésus leur fait la déclaration, allez attendre à Jérusalem, vous allez recevoir la puissance d'en haut. Première question au verset 6, chapitre 1 d'Actes des apôtres, que les apôtres posent à Jésus. Est-ce en ce temps, Seigneur, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps où les choses vont rentrer dans l'ordre pour Israël? Leur conception, leur raisonnement était juif nationaliste, qui n'est pas exempt quelquefois de nos propres conceptions, de nos propres façons de voir le royaume de Dieu, de voir l'Église, selon les enseignements qu'on a reçus. Et là, ici, je m'attache particulièrement à ce qu'on a reçu dans les années 70-80 d'un évangile. Ah oui, j'emploie le terme d'un évangile souvent bonbon, c'est-à-dire, viens Jésus, le Seigneur va régler tous tes problèmes. Viens Jésus, tu n'auras plus jamais de problème financier, pas de problème dans ta santé. Le salut est une sorte d'autoroute à quatre voies dans le même sens. On accepte Jésus, peu importe ce qui arrive après. Sauver un jour, sauver toujours. Quand tu as accepté Jésus, tu es en main sûre, il ne peut plus rien t'arriver. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui arrive, peu importe les gestes posés après. Naturellement, mon but ce soir, ce n'est pas de reprendre des enseignements que j'ai déjà donnés, oui, soit 100% en présentiel, là, mais que j'ai déjà donné à l'Église ou dans des cours que j'ai donnés à l'Église sur des doctrines, comme la doctrine sauver un jour, sauver toujours, que les gens prennent quelques versets. Et sans respecter la ligne, si vous voulez, d'herméneutique qui traverse la Bible concernant le salut. Comme je disais à un moment donné à des gens, Paul va parler clairement, il va dire, quelques-uns ont fait naufrage par rapport à la foi. Il dit, de ce nombre sont hyménés et il va nommer quelques personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire qu'ils étaient dans la foi, qu'ils étaient dans le salut et qu'ils ont fait naufrage. Si on fait naufrage, c'est qu'ils ne se rendent pas à destination. Soyons clairs. Et j'en citerai que cet exemple-là, mais il y en a plusieurs. Et il y a une école de pensée, je sais, qui a paru il y a longtemps, mais qui s'est surtout bien étendue dans les années 80. Et c'est rentré dans le raisonnement, et là j'en reviens à mon texte. Le raisonnement, même si vous avez un faux raisonnement, la parole de Dieu va s'appliquer à vous quand même. Les gens qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu, ça ne changera rien. À la fin des temps, il va y avoir un Dieu pour eux avec. Excepté que ce ne sera pas un Dieu rédempteur, ça va être un juste juge qui va être là pour eux. Donc, malgré nos raisonnements, la parole de Dieu demeure ce qu'elle est. Malgré le raisonnement des apôtres ici, qui ont dit au Seigneur, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus va leur répondre, ce n'est pas à vous de connaître ces choses-là. En voulant dire, occupez-vous de ce que je vous donne à faire et moi, je m'occupe du reste. Hein, on vit en temps de COVID. Il y a des gens qui extrapolent beaucoup sur la COVID et je ne veux pas leur rentrer dans des schémas de pensée non plus. Il y a une bien-aimée qui m'a téléphoné cette semaine. Elle dit, mais s'ils sortent des vaccins, le pasteur, a commencé, et je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais elle me dit, mais le vaccin, est-ce que c'est la marque de la bête? J'écoute, va retourner-les concernant la marque de la bête. Tu vas t'apercevoir que ce n'est pas un vaccin. Et j'ai dit, tu vas t'apercevoir de certaines choses. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent nous tracer par un vaccin, j'écoute, ils peuvent te tracer par ton téléphone. Ils n'ont pas besoin de vaccin pour faire ça. Et ce n'est pas le but de la marque de la bête. Le but de la marque de la bête, on étudie Apocalypse, personne ne pourra ni acheter, ni vendre. C'est un contrôle, pas seulement identitaire, c'est un contrôle sur les actions d'acheter, vendre, aller chercher quelque chose et sur les transactions humaines, beaucoup plus loin, mais c'est d'abord cela que la parole de Dieu. Tenons-nous-en à ce que la Bible dit. On peut extrapoler dans notre pensée, mais il faut faire attention pour ne pas déborder. Les apôtres ici débordent et Dieu les ramène un peu, il les cadre un peu. Si je vous donne un autre exemple de raisonnement comme cela, pourquoi je vous donne ces exemples-là? Pour vous dire qu'il n'est pas impossible, ni à vous, ni à moi d'ailleurs, de déborder du cadre de la parole. Et dans ces temps qu'on vit là, qui sont particuliers, Oui, je trouve que souvent l'Église de Dieu va déborder dans des choses dont on n'a pas à, nous, à se soucier, à savoir, comme un autre chrétien m'a amené bien avant, il dit, fais attention si tu vas passer le test de la COVID, la tige qui avec laquelle ils font le prélèvement nasal, ils défoncent la paroi, la cloison nasale pour te laisser quelque chose dans ton corps. Et il disait, ça peut être la marque de la bête. J'ai dit, non, la marque de la bête, la parole de Dieu nous donne directement. Et je sais qu'il se promène toutes sortes de choses. Et ça rentre dans notre schéma de pensée et ça rentre dans nos raisonnements. Les apôtres avaient des schémas de pensée. Ils avaient un schéma de pensée très nationaliste, juif. Et vous citez un autre exemple, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voit passer Jésus, vous irez lire dans l'évangile de Luc, vous irez lire dans l'évangile de Jean et dans l'évangile de Matthieu. Et vous allez voir que quand il voit passer Jésus, il va dire à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et sa déclaration n'est pas banale, là. Regardez la déclaration de Jean-Baptiste. C'est une révélation, là. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Un agneau, c'était l'agneau du sacrifice. Donc, Jean-Baptiste regarde, voit Jésus passer, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui quoi? Qui ôte le péché du monde, non pas qui vient établir un royaume tout de suite sur terre, qui ôte le péché du monde. Les disciples suivent Jésus. Plus tard, Jean-Baptiste se fait arrêter, et je vous fais l'histoire courte, se fait jeter en prison, se retrouve dans une situation pénible, une situation adverse, se retrouve en prison, dans un cachot, se retrouve privé de la communion fraternelle, un peu comme c'est en train de nous arriver. Et le tiercé se met à courir pour Jean-Baptiste, lui aussi, malgré qu'il avait eu la révélation, dans sa situation adverse. Peut-être que la première journée, il s'est dit, mais le royaume de Dieu vient, puis je vais sortir dans pas grand temps. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, la parole de Dieu ne nous dit pas combien de temps au juste. Mais au bout d'un certain temps, il appelle, il fait venir dans sa prison 2 de ses disciples. Puis il dit, envoyez, il va les envoyer, il dit, allez le voir, allez lire ça dans les évangiles, ça vaut la peine d'être lu. Il dit, allez lui demander, est-ce bien lui ou devons-nous en attendre un autre? Le même gars là, qui a eu la révélation, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, se retrouve dans une situation extrêmement pénible. Un cachot romain, ce n'était pas un camp de vacances. Ce n'était pas un endroit agréable. Ce n'était pas une prison comme on a aujourd'hui. C'est quelque chose de beaucoup plus pénible. Et il envoie 2 de ses disciples pour faire une requête. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et quand eux se présentent devant Jésus, et je vous fais ça vite parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus juste sur ce sujet-là, et eux vont dire, Jean nous a envoyés, et la question posée, c'est, es-tu celui qui doit venir ou en devons-nous en attendre un autre? Jésus, à ce moment-là, pour répondre à la question, guérit des gens, fait des miracles. Bien sûr, il dit, allez dire à Jean ce que vous voyez, ce que vous avez vu. Rapportez-lui que la bonne nouvelle est prêchée, que les morts ressuscitent, que les boiteux sont guéris. Et il va lui donner des éléments sans lui dire, oui, allez dire à Jean, oui, je suis le bon gars, là. Il va le nourrir pour qu'il tire sa conclusion. Pourquoi? Entre autres, pour changer le raisonnement. La conception en lui donnant les éléments du royaume, Jean pouvait visser sa foi, pouvait bannir le doute, pouvaient arriver à une conclusion. C'est pour cela qu'on étudie la parole de Dieu. Donc, les disciples, eux, conception nationaliste, demandent à Jésus, est-ce à ce temps-là que tu vas rétablir le royaume de Dieu? Jean-Baptiste, de quel Jésus dit, il n'y en a pas plus grand que son nez de femme depuis les temps anciens jusqu'à lui, OK? Cependant, c'est le plus petit dans le royaume de Dieu. Jésus va dire à Jean-Baptiste, en fait, va lui donner les éléments pour solidifier sa foi. Le raisonnement, la conception qu'on peut avoir de ce qu'est la parole de Dieu, de quand le Seigneur vient, des choses que Dieu fait doivent être basées sur la parole de Dieu et non pas sur simplement notre raisonnement. On peut tirer par une étude approfondie de la parole de Dieu, mais il faut être sage, ne pas aller en deçà et ne pas aller au-delà, mais rester dans la conception de la Bible. Eux avaient une conception juive, ont été dans leur conception juive, 3 ans et demi passés avec le maître à être enseigné. Première question après la résurrection dans Actes des Apôtres qui pose question tout à fait, passez-moi l'expression, dans le champ. Et cette conception juive-là, c'est pour ça que je vous en ai parlé, va causer, et on va le voir plus tard dans les actes, vont causer des tensions dans la jeune Église, vont causer des tensions dans cette jeune Église-là. Quand une Église a une conception du royaume de Dieu qui n'est pas tout à fait alignée avec la Bible, il peut y avoir des tensions. Déjà, dans une Église, il va y avoir des tensions parce qu'on a été élevé, on vient d'horizons différents. Et c'est pour ça que des Églises, pour régler le problème, du moins, ils pensent qu'ils règlent le problème, disent tout, nous, on est toute la même nationalité. Passez-moi l'expression, là. On est tous pareils. Donc, on a tous la même conception. Et ils pensent éliminer un problème de cette façon-là. Ils ajoutent un problème et, soyons clairs, ils retiennent certaines choses. Et ici, je ne ferai pas le procès d'aucune église de nationalité exacte, de tous la même nationalité, mais je ferais quand même l'apologie d'une église comme la nôtre qui est multiethnique. Elle s'enrichit les uns des autres et le modèle est biblique. Et on va le regarder au cours du livre des Actes des Apôtres. Et je ne suis pas en train de dire que les églises qui fonctionnent de façon ethnique, c'est-à-dire toute la même ethnie ensemble, que ce soit Québécois, Haïtiens, Chinois. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des églises de Dieu. Là. Je ne suis pas en train de dire que ces églises-là fonctionnent mal. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire du tout. J'ai été moi-même invité dans des églises où les gens étaient de la même nationalité. On m'a invité, bien reçu, et j'ai apprécié, soyons clairs. Et c'était des églises de Dieu qui fonctionnaient dans la foi. Je n'ai rien à dire. Ma préférence va de soi pour une église ethnique parce que c'est plus scriptural dans le fonctionnement. Je me contenterai de cela. Donc, Jésus leur répond de leur conception. Le royaume de Dieu ne viendra pas selon leur conception ou selon leur pensée ou selon leur nationalité, mais il va leur dire, le calendrier ne vous est pas révélé. Il dit, ça ne vous concerne pas. Si on reprend les versets qu'on a pris, où il demande les disciples, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. On va s'arrêter là. Ce n'est pas à vous de connaître ça. Je vous ai donné une grande commission. Et c'est cette commission-là que vous devez faire. Et il va leur donner le modus. En ce qui les concerne, eux, là, on étudie un livre précis, le livre des Actes. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémités de la terre. Ceci étant dit, jusqu'aux extrémités de la terre, ça c'est nous. Donc, l'Église a fait son travail. Et on en regarde dans Actes des Apôtres le début de ce travail-là. Donc, l'ascension. On retourne dans notre lecture, Actes. On va prendre les versets 9 à 11. Là, on a vu les trois choses que j'ai déclinées au début. On les a regardées, on a regardé un peu plus, un peu les conceptions, les raisonnements qu'on pouvait avoir, et je voulais fixer votre attention là-dessus. Les moments que Dieu a fixés, donc faisons attention à notre... comment je vous dirais bien? Faisons bien attention à ne pas aller ni au-delà ni en deçà de la parole de Dieu. Et on a regardé le schéma, le plan que Dieu avait donné. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. On pourrait regarder ça en détail. Pourquoi Jérusalem en premier? Pourquoi en dessous de ça, Judée, Samarie? On avait dit que les Samaritains étaient des demi-juifs. Puis ensuite de ça, Dieu suit un schéma bien précis et il ne le fait pas par caprice. Il le fait pour aussi rendre ce qu'il devait faire aux apôtres de façon tout à fait scripturaire dans l'Ancien Testament. Mais on va pousser un peu plus loin. Le verset 9 nous dit du chapitre 1 de Actes, « Après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, Jésus, à partir de ce moment-là, on appelle ça l'ascension. Jésus est enlevé littéralement du milieu d'eux. Et c'est la fin du ministère terrestre de Jésus. C'est la fin du ministère terrestre de Jésus. Ce ministère-là terrestre a eu un début et une fin. Comme la vie de Jésus a eu un début et une fin, et là ici je m'explique, dans un corps naturel, et ensuite de ça, Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire dans un corps qui n'était plus avec les mêmes propriétés. Et rappelez-vous que je vous ai expliqué dans le cours sur Apocalypse vers la fin du cours, je vous ai expliqué la différence entre la résurrection de Jésus d'entre les morts et la résurrection, exemple que j'avais pris de Lazare, qui était ressuscité des morts. Lazare était ressuscité d'un corps mort. Son corps était toujours mortel, assujetti à la maladie, assujetti à la faim, à la soif, assujetti à la mort, puisque Lazare est mort. Jésus est ressuscité, lui, de la résurrection d'entre les morts. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts, pas le premier-né d'entre les morts d'une résurrection mortelle, sinon il ne sera pas le premier-né, puisque lui-même a ressuscité Lazare, mais le premier-né ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire d'un corps glorifié. Ceci étant dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus est monté au ciel d'un corps ressuscité d'entre les morts. Il n'aurait pas pu le faire avec son corps mortel de la même façon, en tout cas. Et il est dérobé à leurs yeux. Le ministère de Jésus terrestre a eu un début, a eu une fin. Sa vie à Jésus a débuté dans une crèche et s'est terminée à la croix. Sa vie terrestre. Ce que j'explique par sa vie terrestre, sa vie mortelle. Ensuite est venue sa vie de résurrection. Sa vie sur terre, elle, s'est terminée à l'ascension, c'est-à-dire s'est achevée dans l'ascension de Jésus jusqu'à ce qu'un nuage le dérobe à leurs yeux. Les versets 10 et 11 nous disent que deux hommes en vêtements blancs. On peut douter que ce n'étaient pas des hommes mortels, ont annoncé son retour. Donc, état de choses maintenant, état de fait. Plusieurs choses ont été dites sur le retour de Jésus. Et j'en rajouterai pas encore une couche, mais à l'ascension, il est fait une déclaration. Après l'annonce de la bonne nouvelle, la parole de Dieu nous annonce que Jésus va revenir de la même façon. Pas d'une autre façon. De la même façon. Des religions ont pris d'autres avenues en disant, oui, le retour de Jésus arrive chaque fois que quelqu'un meurt. La personne, c'est le retour de Jésus pour elle. Effectivement, quand une personne meurt, elle va, en tout cas, tout dépendant si elle est morte dans le Seigneur ou pas, la personne s'en va vers son maître. Mais ce n'est pas le retour de Jésus. Soyons clairs, la parole de Dieu nous fait une déclaration claire ici. On ne peut pas faire de telles déclarations comme une religion bien connue le fait, disant il n'y a pas de retour physique de Jésus sur terre, c'est chaque fois que quelqu'un meurt. D'ailleurs, il y a un commentaire biblique que j'ai dans une Bible qui est derrière moi dans ma bibliothèque qui dit qu'il ne faudrait pas être dupe et croire que Jésus va littéralement revenir sur la terre. Voyons donc, on est des gens intelligents aujourd'hui, on ne croira plus ça. Eh bien, je fais partie de ces personnes-là qui sont calculées par ce commentaire-là biblique comme quelqu'un de Dieu. Je préfère être Dieu et voir la venue de mon Seigneur que de rejeter cette venue-là qui va arriver de toute façon. Quand même, soyons clairs, ces deux choses-là étant établies, la bonne nouvelle devait être annoncée. Le salut par grâce, à commencer par Jérusalem, devait être annoncé aux extrémités de la terre. Et là, on va entrer dans une autre phase du livre des Actes. Après l'ascension de Jésus, les disciples ont dû prendre des décisions. Jésus n'était plus avec eux physiquement. Il leur est apparu, souvenez-vous, la semaine dernière, pas une fois, pas deux fois. La parole de Dieu a dit pendant plus de 40 jours. Il leur a apparu, discutant avec eux des choses du royaume, répondant à certaines de leurs questions, dont le verset 6 qu'on a vu. Et là maintenant, Jésus, on passe à une autre étape. Jésus est littéralement parti. Maintenant, la communauté chrétienne est dirigée par ce qu'on appelle le Saint-Esprit. J'oserais dire ce qu'on appelle le Saint-Esprit par l'Esprit de Jésus. Et on va le regarder plus tard. Je n'en ferai pas un cheval de bataille pour ceux qui, et on en parlera, pour ceux qui voient deux entités différentes. Sachez que la parole de Dieu n'en fait pas un état de choses de la même façon. Et je me contenterai de cela pour l'instant. Donc, eux ont dû prendre des décisions. La parole de Dieu nous dit, dès lors, à partir de l'ascension, où les hommes nous ont dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui est enlevé du milieu de vous reviendra de la même façon. » Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Verset 12 du chapitre 1. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient, regardez bien ici, d'ordinaire, où ils allaient régulièrement. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères le nombre des personnes réunies étant environ 120. Et il dit, homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé et s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce sang a été appelé dans leur langue Akaldama, ce qui signifie champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, le jour où il venait d'arriver, là, ce qu'on vient de lire, là, sont 120 là, dans la chambre haute. Sont 120. On sait que Jésus a apparu à un moment donné à plus de 500 frères à la fois que la parole de Dieu nous dit. Il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux sur les 120. Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, l'évangile de Luc identifie, là, je vais prendre le texte de façon plus globale et je vais séparer, suivant ça, certaines choses. Ça va être notre façon un peu d'étudier, qui me semble la plus cohérente avec ce livre-ci. Je vais prendre le texte un peu dans un ensemble, en tirer une certaine partie comme on vient de faire là, des versets 12 à 26, et je vais en tirer les points centraux. Donc, la parole de Dieu nous dit au verset 12 qu'ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. L'évangile de Luc identifie le lieu de l'ascension vers Béthanie. Pourquoi j'en fais mention? Parce qu'il y a des gens qui relèvent en cela, dans la parole, il dit j'ai des incohérences. Et vous allez voir, ce n'est pas une incohérence du tout. Luc, chapitre 24, verset 50, nous dit ils les conduisit jusqu'à vers Béthanie, pas à Béthanie, jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit, tandis que le livre, lui, des Actes, situe l'ascension sur le mont des Oliviers. Dans Actes, chapitre 1, verset 12, qu'on a pris, alors ils retournèrent de Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. La réponse, qui est tout à fait simple, d'ailleurs pour ceux qui, comme moi, ont fait le voyage, qui ont été visiter ces lieux-là, on peut voir certaines tertres qui sont à des endroits... certains cumulus pour pouvoir repérer certaines choses, ceux qui ont l'œil peut-être un peu plus averti. Okay? Soyons clairs, la réponse toute simple que je vais vous faire, c'est que cette ville-là était située sur ce mont-là qui avait pas tout à fait... on ne parlera pas là, du mouvement des sols, là, mais soyons clairs. Cette ville-là était située sur le mont des Oliviers. D'ailleurs, dans Marc, chapitre 11, verset 1, il est dit, « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. » Donc, dans Marc 11, 1, la parole de Dieu nous dit que le mont des Oliviers est près de Jérusalem. On nous montre deux lieux qui sont situés là, Bethphagée et Béthanie, vers la montagne des Oliviers. C'est là que Jésus a envoyé deux de ses disciples, d'ailleurs. Et on trouve dans Luc, aussi chapitre 19, verset 29. Je veux juste vous situer un peu, pas géographiquement. Moi, j'ai encore l'image quand j'ai été là, mais je ne veux pas vous situer géographiquement parce que ça, je veux vous situer beaucoup plus de façon intelligible, que les deux choses ne se contredisent pas, mais que les deux choses nous situent pas un point précis, mais un endroit qui peut avoir, exemple, deux villes à cet endroit-là. Dans Luc 19, 29, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, donc on est toujours dans la même. Dans le même coin. Et pour ceux qui se posent la question, j'y réponds rapidement, là, la distance du mont des Oliviers de Jérusalem, la parole de Dieu nous donne ici un jour de sabbat. Hein? La parole de Dieu nous dit ici à la distance d'un chemin de sabbat. Un chemin de sabbat dans le Mishnah, qui était des commentaires talmudique, on va dire ça comme ça pour vous situer. Dans le Mishnah, on donnait c'était des commentaires, mais aussi des grands rabbins avaient non seulement commenté, mais avaient aussi donné des ordres clairs sur comment le peuple devait obéir à la parole de Dieu. Et c'est là que Jésus va leur parler, là. Il va dire, vous avez ajouté des choses. Donc, une des choses qui était donnée dans le chemin d'un jour de sabbat, c'est ce qu'on avait le droit de parcourir ou de marcher le jour de sabbat, qui était environ, pas exactement, là, mais environ 1 km. C'est ce qui était permis de marcher. Donc, la parole de Dieu nous dit dans ce qu'on a lu. Et quand ils furent arrivés au verset 13, ils montèrent dans la chambre haute, après avoir marché la distance, ils montèrent dans la chambre haute. Et cette chambre haute-là, on ne peut pas la situer à 100%, mais on peut avoir une bonne idée de quelle était cette chambre haute-là. Ils se tenaient là d'ordinaire. Il n'avait pas fait une location à long terme chez Airbnb, là. OK? Soyons clairs, là. Il fallait que ce soit quelqu'un qui les ait associés pour qu'il le laisse. On peut facilement penser que c'est aussi là que le dernier repas de la Pâque a eu lieu. Jésus va donner un ordre à ses disciples. Ils allaient entrer dans un village. N'oubliez pas que deux villages près du mont des Oliviers, Bethphagée, okay, et Béthanie. Il dit, vous allez rentrer là, vous allez suivre un homme qui porte une cruche d'eau. C'est-à-dire, il aurait pu rencontrer trois hommes, quatre hommes qui portent une cruche d'eau. Lequel suivre? Généralement, les hommes ne puisaient pas l'eau, c'était les femmes qui puisaient l'eau. Donc, ici, on trouve un homme qui puise l'eau. Et ça devrait être révélateur de certaines choses, le fait qu'un homme puisait l'eau. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas en faire une discussion. Ici, j'aimais tout simplement une probante. Quand on étudie la parole de Dieu, on peut regarder une probabilité. Qu'est-ce qui est le plus probable? Donc, ils suivent l'homme, ils disent au maître de la maison, le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Il lui montre une grande chambre haute, meublée, prête à les recevoir. Vous irez lire dans les évangiles, particulièrement l'évangile de Jean qui va donner certains détails. Donc, et Luc aussi. Vous irez lire et vous allez voir que ça se situe dans le même coin. Et il n'y avait pas beaucoup d'endroits qui pouvaient contenir autant de personnes. Ils sont 120 dans la chambre haute. Et on peut voir aussi que les apôtres avaient l'habitude de se tenir là. Donc, il fallait que cette maison-là soit gérée en partie ou totalement par quelqu'un qui les acceptait ou qui avait accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Et en cela, on peut reconnaître peut-être la mère de Marc ou de Jean-Marc, qui assistait un peu Jésus de ses biens. Regardez bien. Tournez dans Actes chapitre 12, verset 12. Pierre est emprisonné et lorsque l'ange le délivre, lorsqu'il sort, il réfléchit ou il pense tout de suite à se rendre. À ce temps-là, la parole de Dieu nous dit, Pierre, après être sorti, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, qu'on va retrouver tout au long des Actes des Apôtres, celui qui est le cousin de Barnabas, celui auquel il va arriver une dissension entre Paul et Barnabas, parce que Barnabas ne veut pas laisser son cousin. Et un va partir avec Silas, l'autre va partir avec Barnabas. Soyons clairs, on va le voir plus tard dans les Actes. Cette dame-là, qui était probablement maîtresse de maison, peut-être, oui, mariée, mais qui avait visiblement soit une grande influence sur son mari, ou soit qu'elle était maîtresse de maison, et c'est pour ça que ce n'est pas elle qui va puiser l'eau. Soyons clairs. On peut penser que c'était une femme assez nantie qui avait assisté Jésus de ses biens. L'Évangile de Jean nous parle d'une Marie et de d'autres, Salomé et ainsi de suite, qui assistaient Jésus de leurs biens. D'accord? Et je ne veux pas aller dans plein de détails, mais on peut voir dans Actes 12-12 que Pierre connaissait ce lieu, que Pierre était habitué à ce lieu. Pierre obtient une délivrance. La première pièce qui dit, hey, la gang doit être où? Tous les apôtres doivent être où? Je suis emprisonné depuis un certain temps. C'est là qu'ils doivent être. Et Pierre se dirige là et effectivement frappe à la porte du vestibule et une servante nommée Rod entend sa voix et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, va avertir les autres. On le lira quand on sera rendu là. Vous allez voir, il y a un fait un peu cocasse. Et on peut voir ici que cette chambre haute-là, il se tenait là d'ordinaire, on l'a bien lu dans le texte tantôt, et c'était familier, coutumier. Il fallait que la personne ait assez d'espace. C'était un grand endroit, soyons clairs, connu de eux. Pourquoi je vous dis ces choses-là? Quand je vous dis que c'est probablement cet endroit-là qui a servi peut-être de dernier repas pour la Sainte-Seine, on ne peut pas l'affirmer à 100% et je ne m'avancerai pas plus loin que cela. Quand je vous parle de probante, d'une probabilité dans la Bible, je vous ai donné un verset, j'aurais pu en prendre d'autres éparses, où on peut voir que c'est une probabilité. Je vous dis juste que c'est une probabilité qui ne change rien, d'ailleurs, à la structure du livre ou à l'étude du livre, soyons clairs. Mais ce qui est à retenir, cette Marie-là, mère de Jean, surnommée Marc, tient une place ici importante dans le soutien du ministère, dans le soutien des apôtres. Donc, beaucoup d'historiens pensent que c'est la maison, effectivement, de Marie, mère de Jean-Marc, où tous les chrétiens se réunissaient. Les 11 apôtres, maintenant, sont là, Judas étant décédé, sont nommés au verset 13. Le verset 13 qu'on a vu, nous dit qui était, et je ne les reprendrai pas tous. Et on voit ici qu'à partir du moment où ils sont nommés, il y a plusieurs d'entre eux dont on n'entend plus parler. J'en prends un là, comme ça, le Barthélemy. On n'entend plus parler de Barthélemy. Il n'est pas dans les Actes des Apôtres. Est-ce que Dieu avait ses chouchous? Est-ce qu'il aimait moins Barthélemy? Puis s'il dit, hey, j'ai peut-être fait une erreur en prenant cela. Non. Le but du livre des Actes des Apôtres, dont on a parlé la semaine dernière, n'est pas de nous montrer de façon journalière qu'est-ce que tous les apôtres ont fait. Bartholomée a fait sa job. Il va recevoir sa propre couronne à la fin, à la fin des temps, et il est rentré dans la présence de son Dieu, il a reçu sa propre salutation. Le but des actes des apôtres, ce n'est pas de nous montrer le cheminement de des apôtres au détriment des autres, mais Dieu, dans sa sagesse, a décidé de mettre en évidence le ministère de certains apôtres, et non pas au détriment des autres apôtres, ce qui ne diminue en rien le ministère des autres apôtres, ou de Barthélemy, soyons clairs. Luc va noter ici que les apôtres attendaient ce que Dieu avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ils passaient leur temps à quoi? Dans la prière, dans la communion, avec la mère et les frères de Jésus. Suivant ça, suivant cette déclaration-là qui est faite ici, dans Actes chapitre 1, où on voit que les apôtres sont avec la mère de Jésus. Après les actes, après cette mention-là de la mère et des frères de Jésus, il n'est plus fait mention de Marie dans les actes des apôtres. Encore une fois, ce n'est pas du fait de minimiser Marie, mais c'est de lui donner la place qui lui revient, c'est-à-dire une croyante, au même titre que vous et moi, une croyante que Dieu a appelée, à qui a donné une mission particulière, qui a rempli cette mission-là. Une religion en particulier, les catholiques, pour ne pas les nommer, et sans porter de jugement sur eux, ont erré, je ne peux pas employer d'autres termes, au niveau de la place de Marie dans la foi du croyant. Si Dieu aurait voulu lui donner cette place-là, si Marie serait la mère de Dieu, soyons clairs, Dieu lui aurait donné une place prépondérante. Et on n'entend plus parler à partir de cela. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais Marie n'a pas une position spéciale dans la Bible. Elle a une position au même titre que Barthélemy, soyons clairs, ou qu'un autre. On n'entend pas parler de Marie particulièrement suivant cela. Les frères de Jésus étaient aussi présents. Aucun doute que les frères de Jésus qu'on nous présente ici ne sont pas comme la même religion le fait, pour dire que Marie était immaculée dans sa conception et qu'elle était montée au ciel corps et âme et qu'elle n'avait jamais enfanté, mis à part l'enfantement de Jésus, et que Joseph ne l'avait jamais approché. Les évangiles nous brossent un autre tableau de Marie qui n'enlève rien à la sainteté de cette dame-là, soyons clairs. Mais pas une sainteté comme elle est conçue dans cette religion, une sainteté qui est une sanctification à laquelle elle a adhéré et elle a reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur, personnel, comme tout le monde. Elle-même va dire dans l'Évangile que Dieu a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Elle ne dit pas ça par humilité ou par fausse humilité, elle reconnaît sa propre condition, comme vous et moi, lors de notre conversion, soyons clairs. Et elle-même va faire cette déclaration-là, et dans Marc, et je ne citerai que cela, et dans Marc, chapitre 6, verset 3, les Juifs, pour qui Jésus était une pierre d'achoppement, vont dire, n'est-ce pas le charpentier, en parlant de Jésus qui avait appris le même métier de son père, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, on monte trois de ses frères et de Simon, en voilà quatre. Et ses sœurs, on ne sait pas. Et ses sœurs, il y en a au moins deux. Donc, ça fait au moins que Marie a enfanté, à part Jésus, six autres enfants. Ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. La Bible cite Jacques, Jose, Jude, Simon, quatre frères de Jésus, que eux, les Juifs, pensaient ses frères naturels au niveau du père et de la mère. Et nous, on sait très bien que non. Et on peut voir, et ses sœurs, donc minimum deux sœurs, donc minimum après la naissance de Jésus, Marie aurait eu au moins six enfants. D'accord? Donc, et ici, des versets 15 à 20, on n'aura peut-être pas le temps de tout prendre, et je vais vous retenir un peu plus de temps. On va regarder le remplacement de Judas. Comment ils ont remplacé Judas? Comment ils ont fait pour prendre cette décision-là? À partir du verset 15 qu'on a lu tantôt, qui nous dit « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies est environ de 120. » Et là, Pierre va expliquer la situation et va les exhorter à remplacer Judas. Et je ne veux pas relire tous les versets qu'on a lus parce que je ne veux pas vous tenir, je ne veux pas me faire chicaner par le frère Lionel. On m'a signé 1 heure et je sais qu'il met 1h15 à peu près, 1h20. Et je sais que vous avez d'autres activités aussi. Donc, on voit à partir du verset 15 l'accomplissement plus ou moins ou en partie de ce que Jésus avait dit à Pierre. Dans Luc, chapitre 22, versets 31 et 32, et je vous le paraphrase un peu, Jésus va dire à Pierre, il dit, quand tu vas être revenu, après que Pierre ait renié le Seigneur trois fois, Pierre revient à son sens, rappelez-vous, il pleure, il se repent et il revient. Jésus lui avait dit, quand tu seras revenu, il y a même des Bibles qui prennent le terme au lieu de revenu, quand tu seras converti, quand tu vas avoir vraiment adhéré, affermis tes frères. Et on voit ici le premier jalon. Pierre, il n'a pas pensé quand il l'a fait, mais Dieu a tout prévu. Il se lève au milieu des frères et Pierre va dire, eh bien, il faut qu'il y en ait un autre qui nous soit associé pour que le nombre revienne à 12. Pourquoi? On va le regarder. Pour que le nombre revienne à 12. Je vous ai dit que leur conception du royaume de Dieu n'avait pas encore fini de se transformer. Comme ça nous arrive à nous, on chemine tout au long de notre vie chrétienne, on prend de la maturité, on prend de l'expérience, on prend de la connaissance dans l'étude de la parole et on chemine dans cette connaissance-là, ce qui nous permet de renverser nos raisonnements, ce qui nous permet de prendre la conception biblique de la vie au lieu de notre propre conception de la vie, ce qui nous permet de prendre des décisions bibliques face à notre vie au lieu de prendre des décisions de la façon dont on a été élevé, soyons clairs. Et ici, Jésus fait la déclaration à Pierre, il va dire, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et l'apôtre Pierre se lève ici au milieu et c'est lui le premier qui va prendre la parole. Il va dire, prenons quelqu'un d'autre. Associons-nous à quelqu'un d'autre qui nous soit associé pour, dans le fait, en fait, du nombre et du ministère pour laisser que Judas ait laissé cette place-là pour aller en son lieu. Et il va citer et qu'un autre prenne sa charge. Ici, il va citer un psaume, le psaume 109, le verset 8. Et c'est ici qu'ils vont en présenter deux pour qu'un des deux leur soit associé. On va regarder pour dans le dernier 10 minutes que je vais prendre encore avec vous. La sélection, comment on fait la sélection? Jésus n'était plus là physiquement, l'ascension marquait la fin d'une chose et en débutait une autre. Et vous allez voir que la réception du Saint-Esprit clôt une chose pour en ouvrir une autre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont y aller avec ce qu'ils connaissent. Ils vont tirer ce que nous, on appellerait au hasard. Ce que nous, on appellerait au hasard. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier et ils vont faire un choix que les gens calculeraient par hasard. D'accord? La parole de Dieu nous dit un peu comment les choses se faisaient dans ces temps-là. Si on revient, si on va au verset 22, ils vont mettre le critère pour commencer. Ils vont dire, depuis le baptême de Jean, ceux qu'on va retenir la candidature, c'est ceux qui étaient là au premier jour du ministère de Jésus, baptême de Jean, jusqu'au jour qu'on vient de vivre, où Jésus a été enlevé. Il y en avait sûrement plusieurs. Ils ont jaugé et en ont présenté deux. Okay? La parole de Dieu nous dit qu'ils en ont présenté deux. À partir du verset 24, il en présente deux. Verset 24 dit, « Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel des deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. » À ce ministère et à l'apostolat que Jésus a abandonné pour aller en son lieu. Verset 26 dit, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias. Donc, ils tirèrent au sort. Comment on tira au sort dans la communauté juive? Surtout de la façon dont ils l'ont fait. Ils ont prié et ont tiré au sort après. Il y avait une façon de procéder. Donc, ils voulaient remplacer Judas et pour le remplacer, ils voulaient mettre des critères. Donc, ils n'ont pas fait fi de leur intelligence. Ils n'ont pas juste tiré au sort. Ils ont regardé les critères d'admissibilité. C'est-à-dire, pourquoi ces deux critères-là? Il fallait que les gens qui se présentent là soient aptes à donner le témoignage de la conversion. Ben, pour la conversion, je m'excuse, des gens, du baptême de Jésus, de la vie de Jésus, de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus et de l'ascension de Jésus. Pourquoi? Parce que les quatre évangiles n'étaient pas écrits. Donc, ils ont été logiquement. D'accord? Mais par contre, il y avait plus qu'une personne. Après que, peu importe s'il y en avait plus que deux, ils en ont présenté deux. Et c'est bien ça qu'il faut vous retenir. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens, Corinthiens, chapitre 15, verset 6, la parole de Dieu nous dit, et je vous le lis de suite, « Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. » Donc, il est apparu à 500 frères, là, mais il en présentait deux, eux autres. Deux qui remplissaient ou qui avaient l'étoffe pour remplir le prérequis. OK? Et je ne veux pas m'étendre sur le sujet. On pourra en parler, vous verriez. Maintenant, je vais vous montrer la façon dont ils ont fait. Ils ont prié. On est en train de parler avant la venue du Saint-Esprit. Ils ont prié, quand même. Puis suivant ça, ils ont tiré au sort, la parole de Dieu dit. Dans ce là comment ils tiraient au sort? Surtout de façon biblique. Ils prenaient deux cailloux. Ils inscrivaient les noms dessus. Ou l'autre façon, c'est de prendre un caillou blanc, un caillou noir, et l'associer à un ou à l'autre, mais la trois quarts du temps, surtout en ce qui concerne un choix, une élection comme ça, ils prenaient deux cailloux blancs et ils inscrivaient les noms dessus, et ils mettaient dans une jarre, une petite jarre, et ils les faisaient tourner. Hein? Ils les brassaient, si vous voulez, les faisaient tourner, jusqu'à ce qu'un soit éjecté. Et celui qui est éjecté, il ramassait, et c'est celle-là qui devenait le résidu. Disons ça comme ça. D'accord? Si vous remarquez, ils ont choisi personne parmi les frères de Jésus. Ils n'ont pas choisi sa mère non plus. Ils ont choisi selon des critères bien précis. Quand on choisit quelqu'un qui va aller dans le ministère, et je fais la petite addenda ici, on ne devrait pas regarder, ah, je vais choisir mon fils parce que c'est mon fils. Je vais choisir mon frère parce que c'est mon frère, je l'aime bien. On doit aller selon les critères bibliques pour un ancien, les critères bibliques. Vous savez, je peux aimer des gens particulièrement dans l'Assemblée. Il y a des gens, soyez rassurés, Dieu m'est témoin, et je ne suis pas un menteur, je vous aime tous. Je vous aime bien. Mais je ne prendrais pas ce critère-là. Si le pasteur Florent viendrait à moi et on manque d'anciens, André, prie là-dessus, je ne garderai pas comme critère. Oui, j'aime bien le frère un tel et je pense qu'on va le prendre parce que je m'entends bien avec. Ça va me faire un bon ami dans le conseil pastoral. Non, les critères qui doivent guider le choix d'un ancien, d'un pasteur, d'un évêque, appelez ça comme vous voulez, doivent être inscrits minimum dans les trois épîtres pastorales. 1 et 2 Timothée et l'épître de Tite. Si quelqu'un ne rencontre pas ces critères-là, il n'est pas apte. Ce n'est pas moi qui choisis des critères. C'est Dieu qui l'a choisi. Il y a déjà quelqu'un qui est venu me voir pour quelque chose de particulier et j'avais dit, puis il avait dit, bon, ben, style, je vais me plaindre. J'ai dit, il faut que tu te plaignes au siège social en haut. Ce n'est pas le pasteur Florent, ce n'est pas moi non plus. C'est Dieu, à un moment donné, qui choisit puis qui établit. Si les hommes le font, c'est de moindre envergure. On va s'arrêter là. D'accord? Donc, eux prient, font ce qu'ils ont à faire pour choisir, et la parole de Dieu nous dit qu'après ces deux exigences-là pour le ministère, on voit que Pierre n'avait aucune autorité par-dessus ses frères. Pierre n'est pas le premier pape parce que la parole de Dieu nous dit « Il, qui soit-il, les 120 en présentèrent d'eux, et non Pierre. » Je crois que dans un collège pastoral, même si un pasteur senior, c'est le « il » qui compte. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous donne plusieurs, je vous en citerai un comme ça, là, que la parole de Dieu nous dit que c'est dans la multitude des conseillers, ça ne veut pas dire d'en avoir 100 000, là, par lequel on va diriger. Et l'Église de Dieu, ce n'est pas une compagnie. Là. Donc, on doit diriger selon les critères bibliques. Il faut prendre des gens qui ont des critères bibliques et il faut pas que ce soit notre pensée. Donc, lorsque le collège pastoral a été établi dans votre Église, dans un commun accord, on prend des décisions pour le bien-être de la communauté. Ici, on voit que Pierre, ce n'est pas un petit pape. Là. Il ne dit pas, ouais, on va prendre Jean-François puis Maurice, puis je les aime bien, Jean-François et Maurice. On va décider entre Jean-François et Maurice qui va être apôtre avec Dieu. Non, non. Ils, les 120 sont là, ils en présentèrent deux. OK? Donc, ils en présentèrent deux qui avaient des qualifications pour succéder. Ces deux personnes-là, d'un commun accord, ils prièrent, puis ensuite de ça, ils l'ont fait en tirage au sort, mais selon la coutume juive que je vous ai expliquée. On ne le voit pas à cet endroit, mais cette décision-là, si on pense que leur conception était juive, c'est probablement prise de cette façon-là. C'est ce que je vous expliquais il y a deux semaines, quand la parole de Dieu nous dit des choses de façon explicite et nous dit des choses de façon implicite. On en a aussi un exemple ici. Et vous allez remarquer, j'ai de la difficulté à terminer ce soir, mais vous allez remarquer, et je m'arrêterai là-bas après cette petite intervention-là, vous allez remarquer certains éléments qu'après qu'ils l'aient fait de cette façon-là, quand ils ont reçu l'Esprit, jamais plus ils n'ont pris une décision en pratiquant cette technique-là du Ils tirèrent au sort. Ils ne l'ont plus jamais fait après. On le voit ici parce qu'il leur manque un équipement. On le voit ici parce qu'ils ont fonctionné avec ce qu'ils connaissaient. Je n'ai pas le temps de développer très à fond le principe. On marche dans le Seigneur selon ce qu'on connaît. Et quand on connaît plus, on se doit de marcher autrement. Et quand on est enseigné de plus, et vous êtes enseigné dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, par le pasteur Florent, par le pasteur Sergio, quand notre connaissance augmente, notre obéissance devrait augmenter avec. Et ici, on voit qu'ils le font. Et quand, après la réception du Saint-Esprit, ils n'ont plus pratiqué, on va appeler ça comme ça, cette technique-là. Bien tenir en compte que cette pratique-là a eu lieu avant la réception du Saint-Esprit. Partout dans les actes des apôtres, après cela, c'est l'Esprit de Dieu qui choisissait ce qu'il se faisait. Par le jeûne, par la prière. On va le voir dans Actes des apôtres, par le choix de Paul, par le choix de Barnabas. Après avoir prié et jeûné, pendant leur ministère, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va dire, mettez-moi à part ceux-là. Ils n'ont plus jamais pratiqué cela. C'est important que vous le reteniez parce qu'on fonctionne avec ce que Dieu donne. Plus ta connaissance augmente, plus ta responsabilité augmente d'obéir à la parole de Dieu. Et je veux faire peur à personne. Trois éléments maintenant. Et je termine avec ça. Hey, je vous ai gardé bien plus longtemps que d'habitude. Trois éléments dans le processus d'administration de l'Église primitive sont évidents ici. Première, l'interprétation ou la compréhension qu'ils avaient de l'Écriture déterminait l'action à prendre, ce qu'ils viennent de faire là. Deuxièmement, tous les croyants participaient en tant que corps à la décision. On ne parle pas de décision factuelle. Troisièmement, on cherchait la volonté de Dieu dans la prière. C'est sûr que nous, à l'Église, quand on prend une décision, on ne réunit pas toute l'Église. On finirait plus de choisir à quelle couleur on va peindre le plancher du sous-sol. Il y en a qui préfèrent le brun, d'autres préfèrent le bleu, d'autres préfèrent le laisser sur le ciment, d'autres préfèrent mettre de la tuile. Hein, moi, je suis un tenant de la tuile. Soyons clairs, on ne m'a pas consulté et on n'avait pas à me consulter. On met des personnes en charge, soyons clairs, qui prennent des décisions appropriées. On prie pour ces gens-là et on s'attend à ce qu'ils prennent de bonnes décisions. Non, je ne rentre pas dans le détail. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on a formé un collège pastoral et c'est sûr qu'on ne fait pas paraître tout le monde devant le collège pastoral. Et je peux vous montrer que la méthode, elle est biblique. D'ailleurs, on va le voir dans le livre des Actes des apôtres. Quand ils vont avoir un certain différend qu'ils ont à régler, ils n'allent pas devant toute l'Église. Paul, d'ailleurs, va même dire, j'ai rencontré les principaux, les plus importants, afin de ne pas avoir travaillé et avoir couru en vain. Donc, j'ai rencontré Pierre, Jacques. Pas Pierre et Jacques étaient plus importants. C'est que Pierre et Jacques, le peuple reconnaissait que ces gens-là, Dieu avait fait reposer un certain pouvoir décisionnel sur ces gens-là. Ils n'étaient pas plus que les autres, soyons clairs, là. Et c'est ça que je vous dis, plus les choses avancent, plus notre connaissance avance, plus la responsabilité avance. Rendez grâce à Dieu que Dieu ne nous a pas tous demandé d'être pasteurs. Parce que croyez-moi, il y a des mardis et des mercredis qui sont plus difficiles que d'autres pour certains pasteurs. Soyons clairs quand on reçoit nos coups de téléphone de la semaine. Et ce n'est pas une plainte. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu sait qui est capable de porter quoi. Et il ne nous appelle pas tous à la même chose. Maintenant, quant au maintien du nombre 12 pour la direction de l'Église primitive, et je suis en train de vous dire qu'il faut que je close cette partie-là. Peut-être que le maintien du chiffre 12 s'est fait parce qu'ils étaient tous juifs et que leur perception était juive. Parce que dans l'Ancien Testament, les positions d'autorité devaient être proportionnelles au nombre de membres dans une synagogue, entre autres. Ici, ils sont combien en haut? Ils sont 120 dans la chambre haute. La dîme de 120, c'est combien? C'est 12. Et là, je ne vous parle pas de votre dîme. Je suis en train de parler d'un nombre proportionnel aux membres. OK? Ici. C'était la façon dont ils avaient à fonctionner. Je vous l'ai dit, il n'y avait pas eu encore la réception du Saint-Esprit. Ou peut-être ils s'identifiaient aussi aux 12 tribus d'Israël. Ou peut-être aussi, et c'est toutes des avenues que je vous rouvre, peut-être que Jésus avait choisi 12 et peut-être qu'il voulait garder l'intégrité du nombre. Et c'est peut-être d'autres raisons. Et ici, je ne me mettrai pas à faire de la numérologie. Il y en a d'ailleurs qui n'aiment pas ça, soyons clairs. Mais le chiffre 12 revêt aussi un caractère particulier dans votre Bible. Dans le Mishnah, entre autres, et là, je ne vous parle plus de la Bible, on nous donne une autorité au nombre, OK? Et je ne développe pas plus que ça. Une fois encore, et je vous le répète pour terminer, il est intéressant de voir leur fonctionnement d'avant la Pentecôte. Les disciples ont fait des choix par le tirage au sort. Oui, il y avait une certaine direction divine. Oui, ils ont prié. Et ont pris des décisions subséquentes à ça, soyons clairs. Mais après la Pentecôte, la communauté est devenue la communauté du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Christ ou de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donnait maintenant direction divine. Amen. Je vous ai tenu beaucoup plus longtemps. On va arrêter là pour ce soir. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais on a encore beaucoup de lundi. Dieu voulant. Et si Dieu en décide autrement, ce sera le bon choix. Parce que Dieu fait toujours ce qu'il y a de mieux pour son Église. On va incliner la tête. Je vous remets entre les mains du Seigneur. J'espère que cette courte étude-là a pu un peu enrichir et vous donner un peu la connaissance de comment cette jeune Église-là a pris les choses en main. Avec la connaissance qu'elle possédait, sans négliger le fait qu'elle devait acquérir d'autres connaissances. Et ça nous concerne aussi. Donc, merci Seigneur. Merci pour ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Merci Seigneur que ta parole, Seigneur, soit si abondante, soit si riche, Seigneur, quand nous la lisons, Seigneur, quand nous regardons un peu plus... à profond, un peu plus de près, Seigneur, on peut voir certaines nuances dans ta parole pour enrichir nos vies, pour enrichir notre connaissance, pour enrichir notre patrimoine spirituel, ô Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, que ces hommes que nous retrouvons ici, que ces femmes que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres, tu nous as laissé, Seigneur, un écrit, une référence à laquelle, Seigneur, on peut plonger les regards, Seigneur, pour savoir comment se conduire, comment on construit une église, comment on bâtit l'œuvre que tu as mis entre les mains d'hommes et de femmes, très imparfaits, mais qui est somme toute sans tache ni ride, parce que cette œuvre-là t'appartient à toi, Seigneur. C'est ton Église. Donc, nous regardons cette formation-là de ton Église, ô Dieu. Seigneur, garde, accompagne, Seigneur, et sanctifie ton Église, Seigneur, pour laquelle tu t'es livré et que tu as versé ton sang, ô Dieu. Seigneur, je te remets ton peuple entre tes mains. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. On reprend lundi prochain, le 30 novembre, à 19h. Soyez bénis.